Alors pour cette deuxième partie, je repasse la parole à notre camarade Marc Rémy.
Une fois arrivé au pouvoir, Morsi chercha à pousser son avantage dans la rivalité qu'il opposait aux dignitaires de l'armée. En août 2012, il évinça le maréchal Tantaoui, dirigeant du Conseil des Forces armées et ministre de la Défense du gouvernement, et Sadi Anam, le chef d'état-major, tous deux se retrouvant nommés à d'autres fonctions. Le coup de force était très limité, car il se fit avec l'assentiment du reste de l'état-major. Certains, dans les sommets de l'armée, n'étaient pas mécontents de voir enfin se libérer des places très recherchées. Cette opération permit des évolutions de carrière attendues depuis longtemps. Au poste de ministre de la Défense fut nommé le général Al-Sissi, celui qui devait renverser Morsi un an plus tard. Morsi s'attribua les pouvoirs législatifs détenus depuis la dissolution de l'Assemblée par le Conseil des Forces armées. Morsi reprenait ainsi l'avantage dans la petite rivalité qu'il opposait au cercle militaire au sommet de l'État. Mais cette rivalité au sommet ne les empêchait pas d'avoir une même préoccupation, venir à bout de la contestation et rétablir un pouvoir fort. Le 22 novembre 2012, Morsi prit un décret qui lui permettait de s'adjuger une partie des pouvoirs judiciaires. Cette concentration des pouvoirs entre les mains de Morsi fit craindre, à juste titre, à une partie de la population, le retour d'un régime dictatorial, moins de 2 ans après la chute de Moubarak. Dans plusieurs régions, des juges se déclarèrent en grève. Des manifestations importantes eurent lieu pour s'opposer à ce décret. En plus de la police, les manifestants eurent à affronter des partisans de Morsi, car celui-ci disposait d'un atout qui avait manqué à ses prédécesseurs. Il pouvait compter sur la mobilisation des membres de l'Organisation des Frères musulmans et sur l'influence qu'elle lui donnait au sein d'une partie de la population. Mais devant l'importance de l'opposition à son décret, Morsi fut obligé de faire marche arrière et de l'annuler en grande partie. Morsi rencontra aussi une opposition de plus en plus forte dans sa tentative d'instaurer un régime fondé sur les préceptes religieux. Dans la constitution qu'il fit adopter, à la notion d'égalité homme-femme, qui serait contraire à la charia, se substituait une vague formule d'égalité entre tous les Égyptiens au sein de laquelle la femme doit trouver un équilibre entre ses devoirs familiaux et professionnels. Était invoquée aussi la vraie nature de la famille égyptienne, sa morale et ses valeurs que protégerait l'État. Un article garantissait la liberté d'opinion et d'expression, tandis que le suivant interdisait d'insulter les prophètes des religions monothéistes, religion qui était censée définir obligatoirement le statut personnel de tout Égyptien. Le régime que Morsi et les islamistes se proposaient d'établir, c'était la dictature des religieux, avec une police des mœurs pour faire la chasse à tous les contrevenants, aux femmes ne portant pas le voile, à ceux dont le comportement aurait été considéré comme déviant et contraire aux préceptes islamiques. C'était la menace d'une régression sociale et politique pour l'ensemble de la société. Cette menace était ressentie en particulier dans les milieux intellectuels, démocrates, au sein de la petite bourgeoisie, qui voyait se profiler la perspective d'une dictature religieuse à l'image du régime des ayatollahs iraniens. Mais dans les milieux populaires aussi, beaucoup n'avaient pas envie de voir les faits et gestes de leur vie quotidienne contrôlés par les religieux et les intégristes. En fait, ni les travailleurs, ni les femmes n'acceptaient d'être soumis à cette espèce d'ordre moral, et ils l'ont montré. Pendant 1 an, sous la présidence de Morsi, les travailleurs ont pu constater que l'arrivée des islamistes au pouvoir n'avait rien changé. Face à la dégradation de la situation économique, Morsi, comme Moubarak avant lui, a dû engager des négociations avec le FMI et la Banque mondiale pour obtenir un prêt de 4,8 milliards de dollars, tout comme son prédécesseur. Il a dû s'engager à imposer des sacrifices aux plus pauvres et en particulier à diminuer les subventions aux produits de première nécessité. Le gouvernement a donc annoncé des augmentations de prix des produits subventionnés, augmentations qui ont été ensuite reportées devant la crainte des réactions populaires. Les classes populaires ont dû faire face à des pénuries d'essence, de pain et de nombreux autres produits alimentaires, à une flambée des prix. Les conditions de vie se sont énormément aggravées en quelques mois. Sous la présidence de Morsi, le gouvernement, comme les gouvernements précédents, a envoyé la police contre les travailleurs qui faisaient grève et qui manifestaient. Et ils ont été nombreux à le faire pendant toute l'année 2012, qui a connu une forte augmentation des mobilisations. 1969 mobilisations auraient été recensées cette année-là et 2400 pour le seul premier trimestre 2013. Contre les travailleurs en lutte, Morsi a cherché à s'appuyer sur les bureaucrates de l'ancienne centrale syndicale unique, les TUF, qui sous Moubarak encadraient les travailleurs. La constitution élaborée par les islamistes confirmait le monopole syndical de cette organisation qui avait fait ses preuves en matière de flicage des travailleurs. Pendant un an à la tête de l'État, Morsi a pu faire la démonstration que son gouvernement était un adversaire résolu des travailleurs. En septembre 2012, 5 syndicalistes d'une entreprise d'Alexandrie ont été condamnés à 3 ans de prison pour avoir organisé, en octobre 2011, une grève à laquelle 600 travailleurs participèrent. C'était la plus lourde condamnation prononcée contre des grévistes depuis l'époque de Sadat. Pour beaucoup de ceux qui avaient espéré un changement après le départ de Moubarak, il apparaissait clairement que le nouveau pouvoir qui tentait de s'établir ressemblait beaucoup à l'ancien et peut-être même en pire. Et ils avaient toutes les raisons de redescendre dans la rue. Mais un nouveau piège se mettait en place pour les travailleurs et la population pauvre, car l'opposition à Morsi s'organisa sur le seul terrain du refus d'une dictature islamiste. Et dans cet affrontement, aucun des deux camps ne représentait les intérêts des travailleurs. En novembre 2012, un front de salut national destiné à rassembler les opposants à Morsi se constitua, regroupant des partis allant de la droite à l'extrême gauche. Parmi les principaux porte-parole, on retrouvait un ancien ministre des Affaires étrangères de Moubarak et ancien secrétaire de la Ligue arabe, Amr Moussa. L'autre figure connue était l'ancien dirigeant de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El Baradei, qui fut lui un opposant très modéré des dernières années du régime de Moubarak. Dans cette coalition hétéroclite se retrouvaient des gens qui n'avaient en commun que leur opposition à Morsi, et jusqu'à un certain point d'ailleurs. L'ancien ministre Amr Moussa proposa un plan en 5 points qui comprenait la mise en place d'un gouvernement d'union nationale sous la direction de Morsi. Et en attendant, cette coalition anti-Morsi se gardait bien de proposer quoi que ce soit aux travailleurs sur le plan social. D'ailleurs, le même plan de 5 points de Moussa comprenait aussi un moratoire des grèves. Sur la place de l'islam dans la vie politique, il y avait une différence de point de vue entre ce politicien et les frères musulmans. Mais sur l'attitude par rapport aux travailleurs, ils étaient tout à fait d'accord et susceptibles de s'entendre. À partir d'avril 2013, fut lancée la campagne Tamarod, rébellion, qui consistait à faire signer une pétition appelant à la destitution du chef d'État et à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. À l'origine de cette campagne se trouvaient ceux qui furent les initiateurs des manifestations de janvier 2011. Leur appel fut repris très vite par tous les opposants à Morsi. En fait, presque tous les partis, à part les frères musulmans, se mobilisèrent pour faire signer cette pétition. La chaîne de télévision appartenant au milliardaire Sawiris, dont j'ai déjà parlé, fit campagne en faveur de la pétition. L'objectif affiché était d'atteindre au moins 15 millions de signatures, c'est-à-dire plus que le nombre de voix obtenues par Morsi pour se faire élire. Et cela avant le 30 juin, jour anniversaire de son élection, date à laquelle seraient organisées des manifestations marquant le point d'orgue de la campagne. Alors, il est certain que cette mobilisation fut un succès et qu'elle rencontra un écho important dans la population. Les organisateurs affirment qu'elle aurait recueilli 22 millions de signatures. Les 2 centrales syndicales indépendantes participèrent à la collecte de signatures, faisant signer la pétition sur les lieux de travail, dans les zones industrielles. Beaucoup de travailleurs apportèrent leur soutien à cette mobilisation. La presse rapporte, par exemple, que le 27 juin 2013, à Mahalla al-Kubra, des milliers de travailleurs quittèrent leur usine pour protester contre un discours prononcé la veille par Morsi, manifestant dans la ville en criant des mots d'ordre exigeant sa démission. Le 30 juin 2013, les manifestations furent massives, plus massives que celles de janvier 2011. Et les travailleurs ont été nombreux à y participer. Le nombre des manifestants a été estimé à 2 millions. On ne peut pas dire quel était le poids et l'influence de chacune des organisations qui avaient appelé à ces manifestations, car les dirigeants de Tamarod avaient imposé, au nom de l'unité du mouvement, qu'aucune organisation ne manifeste avec son drapeau ou quoi que ce soit qui la distingue. Le seul drapeau accepté était le drapeau national. Mais il est également certain que Tamarod a bénéficié du soutien, plus ou moins occulte, d'un certain nombre d'éléments de l'armée, voire d'anciens partisans de Moubarak, qui voyaient là l'occasion de prendre leur revanche contre les frères musulmans. Au soir du 30 juin, les organisateurs de la mobilisation appelèrent les manifestants à occuper la rue jusqu'à la démission de Morsi. Un ultimatum lui avait été adressé, et en cas de refus de sa part, une campagne de désobéissance civile devait être lancée. Des affrontements souvent meurtriers avaient lieu quotidiennement entre partisans et adversaires de Morsi. Une épreuve de force ouverte était engagée, dont le résultat, forcément, dépendait de l'attitude de l'armée. Mais celle-ci était assez prévisible. Le ministre de la Défense, le général Al-Sissi, une semaine avant la manifestation du 30 juin, avait déclaré, je cite, « Les forces armées ont le devoir d'intervenir pour empêcher l'Égypte de plonger dans un tunnel sombre de conflits et de troubles. » Le 30 juin, l'armée avait clairement montré de la bienveillance à l'égard des manifestations. Dans la journée, des hélicoptères avaient survolé les cortèges au Caire, laissant flotter derrière eux d'immenses drapeaux égyptiens. C'était visiblement un soutien apporté aux anti-Morsi. C'était aussi, de la part des généraux, la poursuite d'une opération politique visant à présenter l'armée comme le défenseur et le sauveur du peuple égyptien. Les appels se multiplièrent de la part de nombreux représentants de partis pour demander une intervention de l'armée pour dénouer la situation. Et quand finalement, le 3 juillet, le général Al-Sissi démit Morsi de ses fonctions, la nouvelle fut fêtée par les manifestants dans les rues du Caire. Toute la politique menée par les organisateurs de Tamarod conduisait à ce résultat. Une grande partie de ces organisateurs souhaitait cette intervention de l'armée, et il est sûr que certains d'entre eux ont entretenu des contacts étroits avec l'état-major. Le discrédit de Morsi avait donné l'occasion aux dirigeants de l'armée de reprendre entièrement les rênes du pouvoir entre leurs mains en écartant des concurrents qu'ils avaient acceptés avec réticence. Morsi s'était révélé incapable, malgré ses tentatives, de mettre fin à l'instabilité sociale. Et le rejet qu'il avait fini par susciter était devenu, au contraire, un facteur supplémentaire de troubles. En définitive, les dirigeants de l'armée écartèrent Morsi pour les mêmes raisons qui les avaient amenés à se débarrasser de Moubarak 2 ans et demi auparavant. Le nouvel homme fort du pouvoir était donc le général Al-Sissi. Mais il se garda bien de se mettre en première ligne. Il désigna un président par intérim en choisissant pour cette fonction le président de la Haute Cour constitutionnelle. Celui-ci forma un gouvernement dirigé par un ancien ministre des Finances d'un des gouvernements qui s'était succédé après le renversement de Moubarak. Et une nouvelle période de prétendue transition démocratique pouvait s'ouvrir. Mais cette fois-ci, l'armée pouvait organiser la répression avec le soutien de la plupart des partis, de la droite à la gauche, et avec l'assentiment d'une partie de la population. En effet, aux yeux de cette petite bourgeoisie qui avait manifesté en janvier 2011 contre Moubarak, l'armée apparaissait comme l'ayant sauvée de la menace islamiste. La répression visait d'abord les frères musulmans. La confrérie appela à manifester contre le nouveau pouvoir, et chaque fois ces manifestations se conclurent par des dizaines de morts sous les balles de l'armée. Le 14 août marqua une escalade dans la répression après que l'armée ait dispersé d'une manière particulièrement sanglante l'un de ses rassemblements, causant plus de 500 morts. Les frères musulmans ont choisi à ce moment-là une attitude d'opposition frontale au coup d'État, en envoyant délibérément à la mort ceux qui suivaient leurs appels. Ils ont certainement fait le calcul qu'à long terme, cette attitude leur permettrait de se renforcer dans l'opinion populaire en leur conférant l'image de martyrs et d'opposants à un pouvoir qui ne peut que se discréditer à son tour. Aujourd'hui, Morsi, tous les dirigeants de la confrérie, plus de 2000 militants sont en prison. L'organisation a été interdite et s'est bien saisie. Mais les frères musulmans ont déjà connu dans le passé des périodes de répression. Il est plus que probable que cette organisation soit capable, une fois de plus, de continuer d'exister dans la clandestinité. D'autant qu'il n'est pas dit que la répression les visant ne finisse pas par s'atténuer. Rien n'exclut le retour à une situation de compromis, comme dans le passé, entre l'armée conservant la mainmise sur les leviers gouvernementaux et les frères musulmans cantonnés à un rôle d'encadrement de la population. La répression dont sont victimes aujourd'hui les islamistes peut les aider plus tard à regagner une popularité qui les remettra en situation de prétendre au pouvoir. Et rien ne dit que les dirigeants de l'armée, confrontés à l'usure du pouvoir dans le contexte de crise économique, ne finissent par accepter de faire de nouveau une place aux islamistes. L'armée et les frères musulmans peuvent trouver un terrain d'entente, car ces deux forces ont en commun la même volonté de mettre au pas la population, de lui faire accepter son sort. Et pour cela, tous les moyens sont bons, depuis la propagande religieuse, l'opium du peuple, jusqu'aux moyens les plus violents. Les dirigeants de l'armée ne sont pas moins réactionnaires que les barbus de la confrérie. Le général Al-Sissi s'était fait connaître en avril 2011 pour avoir soutenu les hommes ayant procédé à des tests de virginité de force sur 17 manifestantes arrêtées sur la place Tahrir. Mais surtout, la répression menée par les militaires au pouvoir ne vise pas seulement les islamistes. Le nouveau projet de loi sur les manifestations, validé le 10 octobre par le cabinet du Premier ministre et prêt à être ratifié à tout moment par le président par intérim désigné par l'armée, impose des conditions draconiennes au droit de se rassembler, en donnant carte blanche aux forces de sécurité pour réprimer violemment les insoumis. Le ministère de l'Intérieur exige d'être informé de toute réunion publique de plus de 10 personnes. Dans un des derniers communiqués de Tamarod, on peut lire, je cite, « La loi prive les Égyptiens de leur droit d'organiser des sit-ins, oubliant que c'est ce droit qui a fait tomber les dictatures. Est-ce que le régime a peur d'être renversé comme ses prédécesseurs ?» Les dirigeants de ce mouvement se posent cette question, ou font semblant de se la poser, un peu tard, après avoir apporté totalement leur soutien au coup d'État militaire. À la différence de Morsi, les militaires ont tenté d'explorer la possibilité de compromis avec le mouvement syndical indépendant. Al-Bouraï, cet universitaire qui, pendant plusieurs mois après la chute de Moubarak, avait laissé espérer une libéralisation de la législation syndicale, a été nommé ministre de la Solidarité sociale. Le dirigeant de l'EFITU, l'une des deux centrales syndicales indépendantes, Abu Eita, a été nommé ministre du Travail. Il a tout à fait compris ce qui était attendu de lui, car en entrant en fonction, il a déclaré, je le cite, « Les travailleurs qui étaient les champions de la grève sous le précédent régime devraient maintenant devenir les champions de la production. » Mais heureusement, jusqu'à aujourd'hui, le coup d'État militaire n'a pas dissuadé les travailleurs de mener des luttes. Depuis le mois de juillet, de nombreuses entreprises ont été touchées par des grèves. Les travailleurs du textile de Marala ont fait grève plusieurs jours en juillet pour obtenir le paiement d'une prime, puis de nouveau en août et encore en octobre pour faire respecter les promesses dont une partie à chaque fois n'avait pas été tenue. Au mois d'août, l'armée est intervenue pour briser deux grèves importantes, l'une à l'usine Suez Steel Company, une aciérie où plus de 2000 travailleurs étaient en grève depuis un mois, eux aussi pour obtenir le paiement de primes. L'autre, à la Scimitar Petroleum Company, où l'armée est intervenue pour briser la grève 3 jours après son déclenchement. Dans les deux cas, des travailleurs ont été arrêtés et d'autres licenciés. Comme le racontait un des travailleurs cité par un quotidien, je cite moi, avant, sous Morsi, quand on faisait grève, on nous accusait d'être des partisans de Moubarak. Maintenant, on nous accuse d'être des frères musulmans. Et en effet, eh bien, la répression n'a jamais cessé de s'exercer contre les travailleurs. Et les patrons, eux, de leur côté, ont commencé leur contre-offensive, en particulier en procédant à des licenciements massifs parmi les travailleurs qui se sont mis en avant depuis 2011. Mais il en faut plus pour démoraliser les travailleurs égyptiens, qui, dans ces années, ont appris à lutter et à faire face à une situation très dure. Aujourd'hui, la classe ouvrière en Égypte continue de faire preuve de combativité. Face aux travailleurs en grève, l'armée n'a pour le moment pas osé utiliser la même violence dont elle fait preuve contre les frères musulmans. Mais la classe ouvrière n'est pas à l'abri d'un tel déchaînement de répression. Car les dirigeants de l'armée cherchent à mettre fin aux grèves et à toute l'agitation sociale. C'est ce qu'attend d'eux la bourgeoisie égyptienne. Et c'est pourquoi elle a appuyé le retour des militaires au pouvoir, qu'elle a approuvé toutes les législations anti-grève prises et renforcées depuis 2 ans, sans effet jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi ce qu'attendent d'eux les gouvernements des grandes puissances impérialistes, les représentants du FMI, qui exigent que l'État égyptien soit capable de mener à bien des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire soit capable d'affamer sa population pauvre. Alors, pour conclure, près de 3 ans après le début du printemps arabe, quel bilan peut-on en tirer ? Dans un certain nombre de pays, des changements ont eu lieu au sommet de l'État, sans que l'État lui-même ne change et sans que la situation sociale des travailleurs et des plus pauvres ne connaisse le moindre changement. En Égypte, à la dictature militaire de Moubarak a succédé un régime dirigé par un autre militaire. Mais faire seulement ce constat ne suffit pas. Car entre-temps, pendant plus de 2 ans et demi, les classes sociales se sont mises en mouvement. Des millions de femmes et d'hommes se sont mobilisés, à un degré ou un autre, ont mené des luttes, se sont posés des problèmes politiques, et les travailleurs ont participé à toutes ces mobilisations. Quelles leçons la masse des ouvriers et des pauvres ont-ils tirées de tous ces événements ? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre d'ici. Et il n'y aurait d'ailleurs pas de réponse définitive, car ce n'est pas fini. En Égypte, la classe ouvrière continue de se battre, de revendiquer, et refuse de se les laisser réduire au silence. Et tant qu'il en est ainsi, ça laisse du temps. Ça laisse du temps à ceux qui, dans la classe ouvrière, cherchent à donner une issue à leur lutte. Et nous espérons que ces femmes et ces hommes existent et qu'ils sont nombreux. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il aurait plus facile, aujourd'hui, de discuter, de lire, de trouver le chemin des idées révolutionnaires que sous Moubarak. Et cela, c'est un motif d'espoir. Et c'est un autre motif d'espoir, de voir comment, dans un pays comme l'Égypte, dès que se produisent des mobilisations, la classe ouvrière est présente et participe au combat, parce qu'elle est la seule classe à être capable d'offrir à la grande masse des pauvres et des exploités un autre avenir. Dans ces pays étranglés par l'impérialisme, la bourgeoisie et ses représentants, quelle que soit la variante politique, n'ont qu'un seul avenir à offrir aux travailleurs, la continuation de la misère, de l'exploitation et de la dictature militaire qui en découle inévitablement. La classe ouvrière est peut-être minoritaire, mais dans un pays comme l'Égypte, elle représente une force sociale de 4 à 5 millions de personnes, plus nombreuses que l'armée. Elle représente une force regroupée dans les plus grands centres urbains, une force dont dépend le fonctionnement de toute l'économie. La classe ouvrière pourrait entraîner derrière elle la grande masse des exploités, à commencer par la grande masse de ce petit peuple des villes qui constitue la majorité des travailleurs et auxquels milliers de toutes sortes l'unissent naturellement dans les familles, dans les quartiers où ils vivent. Et au-delà, il y a les campagnes qui restent explosives, où vivent des millions de paysans pauvres, qui constitueraient eux aussi des alliés naturels pour la classe ouvrière. Pour gagner le droit de vivre dignement, pour gagner la moindre liberté, les exploités devront être capables de l'imposer à leurs exploiteurs, à la bourgeoisie et à tous ses défenseurs. Cela exige de la détermination. Mais le capitalisme en crise lui laissera de moins en moins le choix. En Égypte, comme partout ailleurs, le capitalisme refuse déjà, enfin comme dans beaucoup de pays, le capitalisme refuse déjà aujourd'hui à plus de la moitié des Égyptiens le droit de vivre avec plus de 2 dollars par jour. L'aggravation actuelle de la situation des plus pauvres montre que 2 dollars dans le capitalisme en crise, c'est encore trop. Mais cela exige aussi que la classe ouvrière soit capable de s'organiser indépendamment des autres classes. Non seulement pour défendre ses intérêts matériels, pour revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, mais aussi pour mener sa lutte de classe jusqu'au bout. Il lui faut pouvoir défendre ses perspectives politiques propres et un programme qui réponde aux intérêts de toutes les classes laborieuses et de la majorité de la population. Face à cela, l'armée n'est nullement l'ami du peuple, comme elle a cherché à apparaître, et en tout cas ses sommets ne le sont pas. C'est pourquoi la classe ouvrière la verra nécessairement se dresser sur son chemin. Pour être capable de l'affronter, la classe ouvrière aura à organiser ses propres milices. Mais il lui faudra trouver des alliés au sein même de cette armée, en gagnant à son combat les soldats du rang et en les séparant, en les dressant contre l'état-major qui appartient aux classes privilégiées de la société égyptienne. Face au pouvoir des classes possédantes qui lui refusent la liberté, le pain et la justice sociale, la classe ouvrière devra être à même d'imposer son propre pouvoir en s'appuyant sur toutes les autres classes exploitées. Elle aura à l'imposer aux bourgeoisies et aux classes privilégiées des États du monde arabe, mais aussi à l'impérialisme, car c'est lui, en premier lieu, qui refuse le pain et la justice sociale aux masses populaires dans cette région comme dans la plus grande partie du monde. C'est pourquoi ce combat ne peut être mené que par la classe ouvrière, la seule classe internationale qui a intérêt à abattre ce système fondé partout sur son exploitation. Les travailleurs égyptiens ne manqueraient pas d'alliés dans une telle lutte. Leurs alliés naturels, ils les trouveraient du côté des mineurs de Gafsa en Tunisie, du côté des travailleurs et des pauvres qui, dans l'ensemble du monde arabe, depuis 2011, se sont mobilisés pour revendiquer le pain, la dignité, la justice sociale. Et ce combat, c'est aussi celui de tout le prolétariat, qui partout, dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches, devra lutter de plus en plus pour sa survie et pour renverser l'impérialisme. Mais une telle perspective exige que la classe ouvrière ait son propre état-major politique, capable, au jour le jour, d'organiser ses luttes, de l'aider à se repérer, de déjouer les pièges qui lui sont tombés, de définir une politique vis-à-vis des autres classes. Il est indispensable et vital qu'existe en son sein un parti dont ce soit l'objectif. Alors, pour conclure, une conclusion très provisoire, eh bien nous avons confiance dans la capacité de la classe ouvrière de ces pays de se battre. Elle l'a démontré ces dernières années. Et nous avons aussi confiance dans sa capacité de faire émerger des militants capables de construire un tel parti, se fixant cet objectif de la prise du pouvoir par les travailleurs, un parti communiste révolutionnaire.